France Culture.
Bienvenue à tous, les Minutes Culture, ça continue. À 13h, je recevrai Melville Poupeau pour son rôle dans le film de Dominique Baumard, Les règles de l'art. Mais avant, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce soir débute le festival Focus au 104, un week-end dédié à la musique contemporaine et à l'écoute différente, notamment grâce à un instrument très particulier appelé l'acousmonium. Qu'est-ce qui caractérise l'expérimentation musicale et comment l'acousmonium permet-il d'agrandir, de répartir la musique dans l'espace? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Christian Zanesi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur et vous avez été le directeur artistique du GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA, un des principaux lieux d'expérimentation musicale en France. Alors le GRM a été fondé par Pierre Schaeffer qui a notamment composé en 1948 un concert de bruit. Comment on pourrait décrire à nos auditeurs le type de musique dont il s'agit ?
Eh bien, c'était une idée un petit peu folle au départ, où il s'agissait finalement d'utiliser des sons, quels qu'ils soient, que ce soit des sons instrumentaux ou des sons de la vie courante, des sons de chemin de fer, des sons de casserole, des sons d'instruments de musique aussi, pour imaginer des constructions musicales. Et en ce sens-là, c'était une rupture, finalement, avec ce qui était considéré comme les éléments constitutifs de la musique.
Le GRM s'intéresse à plusieurs types d'expérimentation musicale. Il y a la musique concrète, mais il y a aussi la musique électroacoustique. Alors, est-ce que concert de bruit, ça serait plutôt de la musique concrète? Comment est-ce qu'on peut différencier les deux?
Oui, dans un premier temps, Pierre Schaeffer a qualifié cette musique de concrète, musique concrète. Vous noterez qu'il a qualifié ces expérimentations de musique. Il aurait très bien pu aller du côté des arts plastiques ou appeler cela sonique. Mais qualifiant dès le départ ses expériences de musique, il a fait venir à lui, à ses côtés, des musiciens. Si bien que le focus sur la musique a été prioritaire. Et ce faisant, comme c'était un homme d'expérience, à la fois un petit peu artiste et beaucoup chercheur, comme c'était un homme d'expérience, il s'est interrogé sur ce qu'il était en train de faire. Si on lit les écrits dès le départ, il posait toutes les bonnes questions d'entrée de jeu. Et ces questions, il les a résumées dans le concept de recherche musicale. C'est lui qui a inventé finalement ce concept. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment peut-on parler des sons? Comment peut-on parler des bruits? Comment peut-on parler de la forme des bruits, de leur constitution, de leur structure? Et ainsi de suite. Et il a ouvert finalement une discussion qui a été extrêmement bénéfique dès le départ.
Et la musique électroacoustique, est-ce qu'on doit la penser comme une continuité de la musique concrète ou différemment?
Oui,
simplement,
ce sont plusieurs appellations qui finalement parlent de la même chose mais changent l'angle du regard. Musique concrète parce que Pierre Schaeffer s'est rendu compte que finalement il était difficile d'avoir une bonne prévisibilité comme on peut le faire par exemple avec l'orchestre parce qu'il y a toute une tradition d'écriture, une bonne prévisibilité du résultat à venir, si bien qu'on ne pouvait construire et composer cette musique que dans le lieu même de sa composition, c'est-à-dire le studio, parce que imaginez ce que ça va donner de mettre tel son avec tel son avec tel son avec tel son alors que ce sont des terres vierges, c'est extrêmement difficile. Donc il fallait la réaliser concrètement par l'écoute, la valider par l'écoute. Ensuite, on a parlé une décennie plus tard de musique électroacoustique. Pourquoi ? Parce que ça permettait de ranger, ça permettait de désigner tout un ensemble de pratiques, que ce soit la musique électronique qui était réalisée en Allemagne et qui était assez structuraliste finalement, et la musique concrète. Pourquoi ? Parce que ça utilisait finalement plus ou moins les mêmes outils, c'est-à-dire le fait de l'enregistrement. Et ensuite, on a encore évolué en parlant de musique acousmatique, en désignant plutôt l'écoute de cette musique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est commun à ces musiques, c'est finalement qu'on l'écoute sans en voir les causes. Il n'y a pas d'instrumentiste sur scène. Et on a réexhumé d'abord, Pierre Schaeffer avait parlé de ça dès les années 50 avec un de ses chercheurs, Jérôme Peignot. Puis François Bell a un petit peu creusé la question, a parlé d'écoute acousmatique en reprenant le concept de Pythagore qui donnait ses cours derrière un rideau pour que ses étudiants, qu'il appelait les acousmates, ne soient pas perturbés dans leur concentration par par l'image même du professeur. Donc, au fond, la radio est une écoute acousmatique et on a parlé de musique acousmatique. Voilà. Et mais au fond, c'est la même chose. Dès le départ, c'est la même chose.
Et justement, par rapport à l'écoute acousmatique, ce soir, donc, commence le festival Focus au 104 et il y aura un instrument assez particulier, assez exceptionnel, qui sera utilisé, qui est l'acousmonium, créé en 1974. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'acousmonium et une écoute acousmatique, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est cet instrument ?
En fait, c'est un dispositif qui ressemble à un grand nombre de haut-parleurs et qui permet d'agrandir et de répartir le son dans la salle. C'est-à-dire, la question qui s'est posée dès le départ, on est dans cette continuité-là, même s'il y a eu des évolutions majeures, la question qui s'est posée dès le départ, dès les années 50, c'était celle, comment passer finalement du studio où on écoutait avec un haut-parleur ou deux un peu plus tard, à la salle de concert. Et donc, c'est un petit peu comme passer de la salle de montage de cinéma à l'écran de la salle de projection. Et au fond, plusieurs solutions ont été trouvées, mais dans les années 70, plusieurs compositeurs, ceux de Bourges par exemple, François Bell aussi, puis d'autres, ont pensé, au fond, de donner une dimension spectaculaire au concert en multipliant le nombre des haut-parleurs, 60, 70, 80. Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, dans un premier temps, d'avoir une sorte d'agrandissement de l'écran. Il y a aussi l'idée d'une immersion dans le son, et il y a aussi l'idée du mouvement et de la circulation du son. L'immersion, c'est-à-dire être entouré de haut-parleurs, au fond, répond à une propriété du système auditif. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, on entend des sons en haut, des sons à droite, des sons à gauche, des sons derrière, des sons loin, des sons près. Et notre oreille est très, très active sur ces phénomènes acoustiques. Et amener dans la salle de concert par un agrandissement et par une disposition des haut-parleurs ce même type d'expérience répond finalement à une propriété de notre système perceptif.
Et il y aura ce week-end plusieurs artistes construisant la musique contemporaine d'aujourd'hui et notamment Laurie Spiegel qui préfère qualifier son œuvre de musique à changement lent plutôt que de musique minimaliste. Comment comprendre l'objectif esthétique derrière ce concept ?
Bien, pour elle, la musique minimaliste est une musique qui avait nos préoccupations, comment dire, structuralistes. Elle pensait plutôt une dimension spirituelle du son, c'est-à-dire de quelle manière se concentrer sur le son, utiliser notre système auditif pour entendre le moindre changement de la matière sonore, de la matière musicale, et ce changement, de son point de vue, devait être très lent. Je dis « devait » pourquoi ? Parce que la pièce qu'on va entendre demain soir, c'est une pièce qui date des années 70, 75. Elle est née en 45, 80 ans cette année, et c'est une artiste extrêmement attachante qui a beaucoup expérimenté autour des débuts de l'informatique musicale, qui a inventé des procédés, mais qui a toujours associé à son invention une réflexion sur la musique, sur le son, sur toute la partie cachée du son, c'est-à-dire celle qui n'est pas paramétrable.
Merci beaucoup Christian Zanesi.
Merci, au revoir.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, nous fêterons ce week-end la librairie indépendante.
Oui, demain est célébrée la 27e fête de la librairie indépendante. 700 d'entre elles participent à l'événement en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Depuis 1998, la tradition veut qu'à cette occasion, un beau livre et une rose soient distribués aux visiteurs. Cette année, 5 livres juxtaposés seront offerts, tous rédigés sur le thème des fantômes. L'événement a pour but d'attirer les curieux dans ces établissements qui font face à une concurrence accrue. Selon une récente étude, 75% des Français citent les grandes surfaces comme lieu d'achat des livres. Les librairies continuent malgré tout d'ouvrir en France, puisque 130 sont apparues en 2024.
Et pour finir, une enquête partiellement résolue sur la disparition d'une œuvre d'Andy Warhol.
Avec d'autres œuvres, l'exemple d'une sérigraphie de Warhol, donc représentant la reine-mère néerlandaise Béatrix, avait disparu fin 2024 pendant la rénovation de l'hôtel de ville de la commune d'Oudon. Une enquête menée jusqu'en mars cette année a apporté des conclusions qui relèvent des consignes de rangement plutôt que de l'affaire criminelle. L'agence de recherche externe a par exemple expliqué que, je cite, « la propriété n'a pas été correctement attribué, il n'y a pas eu de politique et de procédure établie autour de la rénovation et il n'y a pas eu d'action rapide lorsque les œuvres d'art se sont avérées manquantes. La municipalité de Maashorst a déclaré « il est très probable que les œuvres d'art manquantes aient été accidentellement jetées avec les déchets encombrants ».
Ça alors, on va reparler d'œuvres d'art jetées à la poubelle d'ici quelques minutes. Mais merci beaucoup Sophie Catherine pour toute cette semaine de Point Culture. Il est 13h et vous êtes bien sur France Culture.